Saint-Joseph, le 7 février 1985.
Y a-t-il des questions ? De la substance seconde. C'est la substance seconde. Quelle acuité de Homme ? C'est Homme. Quelle acuité de Pierre ? C'est Homme. Quelle acuité de la substance ? Arché. Quelle acuité de la substance ? C'est la réduplication sur la substance, ce que j'appréhende. La ratio d'acuité d'un principe. La ratio d'un principe. Hein. Est-ce que l'acuité. Bon, je prends l'exemple Pierre. Dès qu'on prend un exemple, on comprend. Bon, il y a Pierre. Tout le monde est d'accord. Substance seconde, homme. Tout le monde est d'accord. Quelle est la substance de Pierre au niveau métaphysique? Quelle est la substance de Pierre au niveau métaphysique ? Sa substance. Et je dirais que c'est son âme. Alors, est-ce que l'acuité de l'homme, c'est pas l'acuité de l'âme ? Puisque l'âme est l'acuité du corps. L'intelligibilité que vous avez de Homme, l'intelligibilité de la même pierre, ça c'est la même, ça c'est très facile. Et ça c'est normal, on est au niveau des catégories, là on comprend tout de suite. Hein? Bon, ici c'est difficile puisqu'on passe à un niveau métaphysique. Alors on pourrait dire, du fait même que je saisis le principe, je suis au-delà de la vérité, j'ai besoin de me poser la question. Et c'est très vrai. Si vous lisez un principe, vous ne demandez pas quelle acuité du principe. Mais vous pouvez lui demander en critique. Mais c'est réflexif. Parce qu'autrement, ça n'a pas de sens. Demander la finité d'un principe, ça n'a pas de sens. Le principe est par lui-même évident. Donc, vous ne demandez pas la finité d'un principe. Mais vous pouvez vous demander, si je prends finité dans le sens que l'acuité, c'est ce que l'appréhension saisit. Ce que dit Saint-Thomas. L'objet de l'appréhension, c'est l'acuité. C'est le totem inénable. Alors, le sujet, lui, le principe, lui, est saisi dans une suite, est saisi par un jugement. Tout jugement implique une appréhension. Donc je peux demander, dans une attitude répressive, quelle est l'appréhension de ce jugement qui saisit ce principe de la substance. Là, c'est une signification. C'est une réimplication. Alors à ce moment-là, c'est la qualité de l'unité. Quelle est la substance de pierre? Quel est le principe de, d'être de pierre? Mais c'est son âme. Quel est votre principe d'être? Sens alors. Vous voyez, c'est pour trouver un sens à la question. Pour trouver un sens à la question, je suis obligé de faire ce petit détour. Toute question implique doit impliquer une certaine signification. Toute question, alors que je cherche, parce qu'au sens tout à fait précis. Quand on saisit un principe, on est au-delà de la cuvité, donc on ne cherche pas qu'à la cuvité. Tandis que là, ça avait un sens. Pour les deux, ça a tout à fait un sens. Et ici, c'est plus délicat. Alors, je suis très bon, je cherche un sens. C'est par rapport à Pierre que je trouve que ça a un sens. C'est pour ça que je ne peux pas identifier substance et totien et l'âme. Je n'identifie pas le mot. Le totien et l'âme, on est au niveau de l'intelligibilité première de la chose, essentielle, capitale. Le principe touche plus profondément la réalité. Au fond, c'est la différence entre jugement et appréhension. Un principe est toujours saisi dans un jugement. Tandis que le Tokémon là, c'est en une impression. C'est là où vous avez ces livres. Mais dans tout principe, il y a une certaine unité. Bien sûr, dans tout principe, vous avez une unité. Et c'est pas ça que je regarde, c'est là le principe. Alors, je vais réfléchir sur ce jugement et dire, dans ce jugement, il y a une certaine intelligibilité pour l'intelligence première. À ce moment-là, vous voyez, je dirais pratiquement l'intelligibilité de cette substance, de la substance comme principe d'être, regardons tel principe d'être, celui de pierre, dans ce sens. Vous voyez, je retombe, c'est pour ça. Bon. Oui. Voici ma mère. Aristote ne l'explique pas, mais je l'explique de cette manière, si vous voulez. C'est que la distinction de matière et de forme est une distinction qui se fait au niveau de la connaissance de ce qui devient. Et pour nous, c'est la première connaissance spéculative. La distinction de la matière et de la forme se fait au niveau de la connaissance artistique. Et c'est notre première manière de connaître. Connaissons d'abord les œuvres artistiques, nous connaissons le devenir, les réalités qui sont nues. Oui. Et nous transposons cette distinction dans quelque chose de plus radical, de la même de l'être. Et c'est pour ça que nous disons selon la forme. Oui. Parce que la distinction première se prend du côté de la matière et de la forme au niveau du devenir. Quand vous voulez, c'est vrai que c'est une première réalité, vous n'expérimentez que des réalités à venir. Vous n'avez jamais expérimenté l'être. Le spectre. Non, vous n'avez jamais expérimenté l'être, c'est impossible. Vous ne pouvez pas expérimenter l'être. Vous ne pouvez pas arriver à l'expérimenter. Vous n'expérimentez que les réalités qui sont en devenir. Et alors, parce que vous avez une telle naturalité avec les réalités qui sont en devenir, la distinction matière et forme est une distinction qui nous est comme naturelle. Tandis que saisir l'être, c'est quelque chose qui est plus visible, c'est au-delà. Mais c'est dans la ligne de la forme. Oui. C'est comme si vous disiez une métaforme. Cette cause, c'est pour ça qu'il y a quelque chose un peu contradictoire, et qui n'est pas tout à fait juste, quand la scolastique dit cause formelle. Oui, la substance cause formelle. En toute réalité, en toute précision, il ne faut pas dire cause formelle, il faut dire cause selon la forme. La cause formelle, c'est la nature. Ce n'est pas la substance. Et ça te manque. Parce que les Arabes l'ont dit. C'est un peu néoplatonicien. Alors en théologie, c'est pas gênant. En philosophie, c'est un peu gênant. Ça répond seulement dans un peu. Nous sommes beaucoup, on doit être beaucoup plus strict au point de vue philosophique que saint Thomas, qui ne fait pas de philosophie. Saint Thomas suit de la théologie. Donc la philosophie est prise matérialitaire, de façon utilitaire. C'est ce qui explique comment la scolastique qui se sert de la théologie pour redécouvrir une philosophie, est si lourde et si grosse. Relisez de temps en temps un manuel de la scolastique, vous n'y comprenez plus rien du tout, même Macquart, hein, doit être à la bibliothèque. Prenez ça de temps en temps. Macquart, c'est le dernier manuel scolastique à exister. Enterrement de première classe. Avec tambour et vous avez là le pantalon de la scolastique et c'est très beau. Alors, vous avez la substance, vous avez une cause formelle. Qu'est-ce que c'est la cause formelle? La cause formelle, ça veut dire la forme et la matière. C'est la nature. La seule cause formelle, c'est la nature. Donc je suis au niveau du devenir. Là, je suis au niveau de l'être. Vous comprenez que si vous divisez l'être en forme et matière, la matière devient une cause propre de l'être. Et si la matière devient une cause propre de l'être, vous tombez dans un matériel. Vous ne pouvez plus penser une réalité qui ne soit pas matière. Puisque qui dit cause formelle implique le couple cause matérielle. Tandis que quand vous dites que la substance est cause selon la forme, ah, vous ne dites rien par rapport à ça. Parce que selon la forme, tout simplement, c'est un dépassement. Tandis que si vous mettez cause formelle, cause matérielle, alors la substance, principe d'être, cause formelle, alors la matière, cause matérielle, oui, dans l'être. Alors vous arriverez à la position bien connue d'Averroès. De l'île. Est-ce que tu vas le mettre ensemble? Oui. Chercher la qualité de tous les prédicats. Alors, voyons maintenant chapitre 6. Hein, c'est bien là où on intéresse. Que la qualité de chaque être soit identique ou différente. Que la qualité de chaque être soit identique ou différente. C'est ce qu'il nous faut examiner. Car c'est la chose utile à savoir pour notre enquête sur la substance. Vous voyez que Saint-Thomas n'identifie jamais qu'unité et substance, hein, ça, bien le comprendre. C'est tricot qui a un petit peu de quantification. Chaque être, en effet, semble bien n'être rien d'autre que sa propre substance. Chaque être, en effet, semble bien n'être rien d'autre que sa propre substance. Et on dit de la qualité qu'elle est la substance de chaque être. Vous voyez cette petite phrase. Et on dit de la cuidité qu'elle est la substance de chacun. On identifie substance et cuidité. Là, cette proposition. Ainsi donc, lorsqu'il s'agit. Saint Thomas montre la difficulté, je veux dire, Aristote montre la difficulté. Ainsi donc, lorsqu'il s'agit de choses qui se disent par accident, il semble bien que la cuidité et la chose soient différentes. Par exemple, homme blanc est différent de l'être homme blanc. Si en effet, il y avait identité, il y aurait identité aussi de l'être homme et de l'être homme blanc. En effet, homme et homme blanc sont identiques comme on le prétend, et donc aussi l'être homme blanc et l'être homme. Mais il n'est pas nécessaire que toutes les choses par accident soient identiques. Car ce n'est pas non plus de la même manière que les extrêmes sont identiques. Mais peut-être semblerait-il, du moins, que les extrêmes soient identiques, ceux par accident, comme par exemple l'être blanc et l'être musicien, mais il semble que non. Vous voyez, je crois assez facilement que la qualité de être blanc et être blanc et être sont deux choses différentes, puisque l'accident s'ajoute. Donc c'est nécessairement différent. L'acuité de l'être blanc et l'acuité de l'être sont différents. L'acuité de l'homme et l'acuité de l'homme blanc sont différents, puisque de fait, il y a quelque chose qui s'ajoute. Mais quand il s'agit, c'est là la chose difficile. Jusque-là, c'est facile à comprendre. Hein. Tout simplement, parce que l'accident, c'est la négation. Vous voyez, c'est pas la même chose homme et homme blanc. C'est pas la même chose homme et homme blanc. C'est-à-dire, quand vous ajoutez quelque chose, vous ajoutez blanc. Blanc s'ajoute à homme. Donc, la qualité de homme blanc et la qualité de homme, c'est pas la même chose. Ça, c'est à comprendre. Mais quand il s'agit des choses qui se disent par soi, alors c'est là où la question est très délicate. Est-ce qu'Aristote parle pour lui? Ou est-ce qu'il parle en fonction de Platon? Vous voyez? Ça, l'interprétation va être très difficile à cause de ça. Mais quand il s'agit des choses qui se disent par soi, qu'attend-on? Les choses qui se disent par soi, c'est-à-dire l'homme en soi, l'animal en soi, le champ en soi. N'est-il pas la parole en soi, comme on disait ce matin? Alors, on chosifie, on personnifie. C'est la même chose, personnifier ou chosifier. C'est exactement la même chose. La chose en soi, la parole en soi. Mais quand il s'agit des choses qui se disent par soi, n'est-il pas nécessaire qu'il y ait identité de la qualité de la chose? Par exemple, s'il y a des substances auxquelles ne sont antérieures aucune autre substance, ni aucune autre réalité naturelle, comme sont les idées, au dire de certains. C'est bien. Si en effet sont différents le bien lui-même et l'être bien, l'animal et l'être animal, l'être de ce qui est et ce qui est, alors il y aura d'autres substances, d'autres réalités naturelles et d'autres idées à côté de celles que nous avons dites et qui seront antérieures et davantage substances si la qualité est substance. Si la qualité est substance.
Oui, pas d'interrogation, c'est pas ce qu'Aristote accepte.
De plus, donc, qu'est-ce qu'Aristote veut dire ? Aristote veut dire que lorsqu'il s'agit des réalités tout à fait premières, donc des réalités simples, qualité et substance identique. Qualité et la réalité s'identifient. Vous voyez, quand on dit qu'en Dieu, l'essence et l'existence sont simples, ne font qu'un. Dans toutes les réalités premières, la qualité et la chose s'identifient. Parce qu'on est en face de réalités premières, c'est-à-dire absolument simples. Si c'est premier, c'est simple. C'est facile. La simplicité, c'est l'apanage du premier. Le premier, parce qu'il est premier, est simple. Le second, parce qu'il est second, est toujours compliqué. Comme dans les processions. Le premier est toujours simple. Il marche droit, le premier. C'est le second qui ne marche pas droit. C'est évident. Parce qu'il est toujours en référence avec le premier. Et donc, il louche toujours un peu. Tandis que le premier, il est chaque fibre. L'apanage du premier, c'est d'être simple. Le premier, comme premier, toujours simple. Dans l'ordre où il est premier. Premier, il est en référence à l'écrire. C'est le premier. Si on est premier, on est simple. Si on est second, on est nécessairement en référence avec le premier. Donc, on est en référence avec le premier. On est en référence avec le premier, puis on est soi-même. Donc, on est soi-même et en référence avec l'autre. Donc, on est deux. Toujours. Et donc, pour un second, quidité et la chose sont toujours deux. Ce ne sont jamais la même chose. Tandis que pour des réalités simples, c'est la même chose. De plus, si ces choses sont séparées les unes des autres, Aristote ne se pose pas la question là, est-ce que ça existe, ça n'existe pas. Il montre simplement cette chose très curieuse, et ça c'est très intéressant, que pour les choses en soi, pas de différence entre qualité et substance. C'est pas étonnant que Platon n'a pas pu la distinguer. C'est ça, enfin. Aristote donne la raison de l'erreur de Platon. Platon n'a pas su distinguer qualité et substance. C'est pas étonnant, parce qu'il regardait les choses simples. L'homme en soi. De plus, si ces choses sont séparées les unes des autres, d'une part, il n'y aura plus de science des unes, les substances, d'autre part, les autres, les qualités, ne seront plus des êtres. Je parle d'êtres séparés s'il ne se trouve aucunement dans le bien lui-même, l'être bien. Et donc l'être bien, le fait du bien. Il y a en effet science de chaque être lorsque nous en connaissons la qualité. Ça c'est intéressant à souligner. Il y a en effet science de chaque être lorsque nous en connaissons la qualité. Et il en va de même en ce qui concerne le bien et les autres choses. En sorte que si l'être bien n'est pas le bien, l'être de ce qui est n'est pas ce qui est non plus. L'être un n'est pas l'un. Les quidités s'identifient pareillement aux choses dans tous les cas ou dans aucun, en sorte que si l'être de ce qui est n'est pas le ce qui est, il en sera de même pour toutes les autres choses. Oui. On voit bien ce qu'Aristote veut dire, c'est que si la qualité distingue de l'être, vous ne connaîtrez plus la science de l'être. Vous connaîtrez la qualité, vous ne connaîtrez pas la réalité. C'est vrai, ça. Alors, quel est le lien, c'est ça toute la question, quel est le lien entre pudité et grâce? La science redonne la pudité. C'est une distinction, une séparation entre Totienena et la pudité et la res. Je connais la pudité, mais je ne connais pas la res, parce qu'on dit ça. Donc la science ne fera la science aucune réalité. Puisque la science étudie la pudité. Ça, c'est un très gros problème. C'est un très gros problème, c'est de savoir qu'atteint la science de la réalité. La science atteint l'intelligibilité. Que je saisis. Mais s'il y a une distinction entre intelligibilité et réalité, j'atteins donc la pudité, mais j'atteins pas la res. Vous voyez comment on est une tante. C'est ça. Le nous-même est inconnu. La res est inconnue. Et je connais ni pas la pudité. C'est vrai, ça. Alors, c'est souligne, ça. Et au fond, c'est tout le problème du rapport entre l'intelligibilité et la réalité. La science connaît l'intelligibilité, mais la réalité n'est pas l'intelligibilité. Alors, quel est le rapport entre les deux? De plus, ce à quoi n'appartient pas l'être bien n'est pas bien. Il est donc nécessaire que soit un l'être bien et le bien, le beau et l'être beau, et tous les êtres qui ne sont pas dits selon un autre, mais par soi et premier. Et en effet, cela pourrait suffire, même s'il n'y avait pas d'idées, et peut-être davantage même s'il y avait des idées. Or, en même temps, il est clair aussi que si les idées sont telles que certains le disent, le sujet ne sera pas substance. En effet, il est nécessaire que celles-ci soient des substances et ne soient pas sous un sujet, car alors il serait par participation. Pour montrer la différence qui existe entre les idées et la réalité dans laquelle se trouvent les réalités. Si les idées sont séparées de la réalité, vous retrouvez la même chose, hein. Et vous montrez là le point de vue très intéressant de ce que nous connaissons, les idées. Si vous mettez l'idée de l'idée, c'est la même chose. Vous connaissez les idées, mais comme les idées ne sont pas la réalité, vous connaissez les idées sans connaître la réalité. Alors, est-ce que la réalité participe à l'idée, ou est-ce que l'idée est séparée de la réalité? Est-ce que la réalité est séparée de l'idée? Et bon, c'est tout le problème de la connaissance que Aristote souligne, et tout le statut critique de la science. C'est ça qui est intéressant. Aristote montre, c'est très bien de dire que la substance n'est pas la pudité, mais alors est-ce que vous n'allez pas à une position impossible de dire que vous ne connaissez rien de toute la réalité? Et à première vue, ça colle très bien. C'est bien évident. Mais au fond, c'est un plaidoyer, ça, pour l'idéalisme. Vous connaissez les idées, vous connaissez la cuidité, mais vous ne connaissez pas la réalité. Alors, comment expliquer que la connaissance regarde la réalité? Mais le jugement d'existence. Au fond, vous êtes là tout à fait. Et dans cette ligne-là, c'est tout à fait Kant. Vous connaissez les idées, vous connaissez les formes a priori, mais le nous-mêmes échappe complètement. Pour ces raisons, il faut dire que chaque être lui-même et sa cuidité sont identiques. C'est la seule manière de s'en tirer. Autrement, on est pour Kant, on s'est parlé d'eux. Pour ces raisons, il faut dire que chaque être lui-même et sa cuidité sont identiques, non par accident. Et pour ceci encore, que connaître chaque être, c'est connaître sa cuidité, en sorte qu'il est nécessaire aussi pour l'exposition que les deux choses soient une. Quant à ce qui est dit par accident, comme musicien ou blanc, à cause de sa double signification. Il n'est pas vrai de dire que sont identiques sa cuidité et lui-même. Et en effet, le blanc est ce relativement à quoi le blanc est accident. Et l'accident lui-même, en sorte que la cuidité et la chose même sont en un sens identiques et en un autre différents. En effet, l'être blanc n'est pas identique à l'homme et à l'homme blanc, mais il est identique à sa cuidité affective, son pathos. Donc vous voyez comment Aristote sentir, hein, il faut nécessairement que la cuidité et la réalité soient une. Autrement, connaissant la cuidité, je ne connais pas la réalité. C'est très fort comme raisonnement pour montrer le fondement de la science. Si la science prétend connaître quelque chose de la réalité, il faut nécessairement que la cuidité et la réalité soient une. On ne dit pas le comment. L'absurdité peut apparaître encore si l'on donne un nom à chacune des cuidités. C'est un substitut, on vous donne un nom. En effet, il y aura à côté de celle-ci une autre cuidité encore, par exemple, à la cuidité cheval se rapportera une autre cuidité. Cependant, qu'est-ce qui empêche encore maintenant que quelques êtres soient directement la cuidité, et la substance est la cuidité. Si la substance est la cuidité. Si bien, bien plus, non seulement elles ne font qu'un, mais encore leurs propres notions sont identiques, comme c'est également clair à la suite de ce que nous avons dit, car ce n'est pas par accident que sont une et même chose l'être et l'un. C'est très curieux. De plus, si elles sont différentes, on ira à l'infini, car d'une part, il y aura l'acuité de l'un et d'autre part, l'un, en sorte que ce sera le même raisonnement aussi pour chacune de ces choses. Il est donc évident qu'en ce qui concerne les êtres premiers et qui sont dits par soi, l'être de chacun et chacun sont une même et identique chose. Les arguments sophistiques réfutant cette position sont manifestement démolis par la même solution apportée au problème du savoir si Socrate et si l'être de Socrate sont identiques. En effet, il n'y a pas de différence, ni du point de vue de ce qui est à l'origine des questions, ni du point de vue de ce qui permet d'obtenir des solutions. Mais voici donc bien énoncé comment la cuidité est identique à chaque être et comment elle ne l'est pas. Alors, hein, qu'est-ce que ça vous dit ? Vous dites, au fond, qu'est-ce que ça veut dire dans la pensée de Aristote ? Parce que c'est ça qui m'intéresse, hein. Chapitre 7, ça va être quelque chose de différent. Là, on reste au point de vue de la cuidité. Pratiquement, on a fini avec la cuidité. Alors, j'espère que vous avez compris. Hein, c'est quand même très important. Alors, ce que c'est que la cuidité, cette drôle de bête qui apparaît tout d'un coup. Non. Alors, vous voyez la pensée d'Aristote. C'est très bien de distinguer cuidité et l'être. Cuidité et substance. Mais si je fais de cette distinction une séparation, j'aboutirai à une impasse, parce que je ne connaîtrai jamais la réalité. Je ne connaîtrai que l'acuité. Si au contraire, je comprends que l'acuité, elle provient de la réalité. Donc, la réalité et l'acuité, ça ne fait qu'une seule chose. Puisqu'elle provient de la réalité. Quand je pense à l'acuité de chat, mais l'acuité de chat, elle est dans le chat. C'est bien évident, si le chat n'existait pas, il n'aurait jamais pensé à l'acuité du chat. Donc, l'acuité, elle est dans la réalité. Elle n'est pas séparée de la réalité, mais elle est distincte de la réalité, parce qu'elle ne dit pas toute la réalité. Elle ne dit qu'un aspect de la réalité, l'aspect le plus profond, le plus fondamental, mais elle ne dit pas toute la réalité. Donc il faut bien comprendre qu'il s'agit non pas d'une séparation, mais d'une distinction entre cuidité et substance. Parce que la substance implique dans sa propre existence la cuidité. Parce que la substance implique dans sa propre réalité la cuidité. La cuidité est impliquée dedans. De sorte que je peux dire que Pierre et la cuidité de Pierre sont identiques. Et je peux dire que Pierre et la cuidité de Pierre sont différents. C'est tout est là-dessus. Enfin, c'est très simple. Toujours, hein, c'est très simple ces choses-là. Il faut le saisir. Quand on l'a saisi, on voit qu'il est très très simple. Vous avez tous compris. Vous comprenez d'une autre manière. C'est pas compliqué, vous savez. C'est pas compliqué du tout. Mais c'est évidemment. Ça demande un tout petit peu de réflexion.
On pourrait dire que ce sont deux
touchés de différentes intelligences qui sont mondialisées. Vous voyez, c'est pratiquement toujours jugement et appréhension. Alors, n'oublions pas pourquoi Aristote, cette distinction n'existe pas. Dans toute Platonique, il n'y a pas de distinction entre appréhension et jugement. Alors, tout l'effort d'Aristote, c'est d'arriver. Nous, c'est facile, nous l'avons. Alors c'est très facile, cette distinction entre appréhension et jugement. Il fallait le trouver. Or, Platon n'a pas distingué jugement et appréhension. Il n'a pas distingué les deux. Comme dans beaucoup de connaissances esthétiques. Toute philosophie un peu esthétique ne distingue pas appréhension et jugement. Ça, c'est bien évident. Non seulement dans leur philosophie, mais dans leur vie. Ils sont comme ça. Ça me dit, perd un peu la tête. Mais oui, ils sont pas comme ça, ils sont dans l'appréhension. Tout le temps, ils appréhendent tout le temps. Et ils croient que c'est la réalité. Et il est de pied sur terre, voyez, c'était la réalité. Ils appréhendent. La philosophie de Platon ne fait pas la distinction entre appréhension et jugement. Aristote, lui, veut sauver ce qu'est intelligent dans Platon et en même temps sauver la réalité. Et donc, il va essayer de découvrir la différence entre appréhension et jugement. Pour découvrir appréhension et jugement, vous comprenez bien, le tout petit M à image, il est ce qu'on appréhende. La res, la réalité, c'est ce qui est le jugement. Jugement d'existence, il se termine à la réalité. Tandis que l'appréhension, on va tout tenir. Alors, on va regarder tout le temps quel est le lien entre ce totiémenal et la réalité. Alors, une distinction très nette, hein, et au fond, tout joue là-dessus. Aristote va faire trois aspects. Il va donner la réalité, la res sainte, ce qui est en soi. Réalité sainte, c'est-à-dire les idées. Il va donner les réalités composées. Et les réalités composées par l'accident. Parce que Pierre, c'est une réalité composée. Mais Pierre, peut-être quelque chose, si je regarde Pierre, la substance de Pierre, c'est quelque chose d'essentiel. Tandis que si je l'ai capable de rire, ça s'ajoute à Pierre. Alors c'est les accidents. Et il joue toujours sur les trois tableaux. Oui. Il joue sur les trois tableaux. Il joue sur les trois tableaux pour essayer de saisir quel est le lien du Totsienenan avec la substance. Dans les réalités simples, le Totsienenan et l'Oubina ne font qu'un. Dans les idées, le Totsienenan et l'Oubina ne font qu'un. Je ne peux pas distinguer dans les idées Totsienenan et l'Oubina. Parce que c'est le propre, justement, des idées, c'est d'être principe d'intelligibilité. Et ce principe d'intelligibilité fait que ces idées existent comme des réalités premières. Donc je ne peux pas distinguer les deux. Dans les réalités simples. Alors, cas hypothétique, mais très intéressant. Les réalités composées, les réalités habituelles, pierre, l'ousia de pierre, n'est pas sa cuidité. C'est sûr. La cuidité est simple, l'ousia de pierre est complexe. L'ousia, là je prends l'ousia, la substance première. La substance première. L'ousia première. Ça ne te précise pas, c'est ça. C'est Pierre. Pierre et l'intelligibilité de Pierre, c'est-à-dire homme, c'est pas identique. Pierre n'est pas identique à homme. Pierre ne peut pas dire comme Jean-Jacques, regardez-moi, vous regarderez l'homme. Il y a Jean-Jacques qui peut dire ça. Jean-Jacques peut dire ça. Mais il n'y a que lui qui veut dire ça. Regardez-moi, vous verrez l'homme. Non, Pierre n'est pas identique à homme. Homme, c'est la vérité, et Pierre, c'est l'ousia. Donc il n'y a pas d'identité entre les deux. Mais vous comprenez bien que l'ousia seconde, l'acuité, est attribuée à Pierre. Donc l'acuité est en Pierre. Elle n'est pas séparée de Pierre. Elle est Pierre. Pierre, il est l'homme. Et pour saisir ce que c'est que l'homme, je dois regarder Pierre. C'est bien évident. Mais l'homme n'est pas l'homme n'est pas Pierre. Et quand je regarde troisième blanc, c'est le blanc, c'est l'accident. Alors j'ai une chose composée là. Je dois dire que la cuidité de l'accident et la cuidité du composé accidentel n'est pas la cuidité de chacun des éléments. Troisième distinction. Vous voyez ? La cuidité de l'accident et la cuidité de la réalité accidentelle qui implique cet accident, vous en croyez pas. C'est évident. Est-ce que vous voyez ça un peu mieux? Vous voyez tout le souci d'Aristote, hein, tout le souci d'Aristote, c'est de nous faire comprendre que seul, dans les réalités simples, substance et cuidité, en dehors des réalités simples, c'est-à-dire en dehors des idées, cuidité et substance ne sont pas identiques. Mais ne sont pas séparées. La cuidité est dans la réalité. Alors, je le vois tout de suite dès que je regarde au point de vue d'appréhension. Les substances, les réalités simples, on ne peut pas les analyser. On les saisit, on ne les saisit pas. On les appréhende, on ne les appréhende pas. Les réalités composées, on peut les saisir de diverses façons. Donc, les appréhensions sont multiples. Et les jugements que je porte sur cette réalité en disant qu'elle existe, bon, c'est un jugement qui dépasse les appréhensions. Et lorsqu'il s'agit des accidents, je vois que chaque accident a sa cuidité qui n'est pas la réalité composée. La réalité composée n'a pas de cuidité. En blanc, ça n'a pas de cuidité. C'est pas simple. Et je peux dire homme blanc, je suis en existence.
Ah, très bien, je sais. Une demi-heure de silence.
Alors, je disais appréhension et jugement, vous comprenez bien, parce que le jugement porte sur la réalité existante, dans toute sa complexité. L'appréhension porte sur quelque chose de simple. La totienenan, une forme.
par sa simplicité. Alors, je crois qu'on peut avancer. C'est l'heure. Encore combien de minutes? Plus du tout. Combien? Une demi-minute. Par la crudité de la demi-minute. Bon, à son existence.
En tant que le jugement est une opération différente de l'appréhension, est-ce qu'il peut dire qu'il y a un c'est modéré et un c'est séparé dans le jugement? Je veux dire que.
Dans toute partie d'un jugement, il y a un c'est modéré. Dans toute partie.
Mais en tant que.
Dans toute partie du jugement, il y a un c'est modéré.
Mais en tant que le c'est modéré du jugement va au-delà de l'appréhension. Est-ce qu'il y a un c'est modéré et une intelligence séparée? Est-ce que.
Ah, je ne sais pas que l'intelligence est séparée. C'est dans toute acte, toute opération vitale est un c'est modéré. L'appréhension est un acte vitale, un c'est modéré.
Le jugement aussi. Alors, c'est un c'est modéré qui fait comment? Parce qu'il est au-delà des éléments de l'appréhension, il va arriver pas. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un c'est modéré et une intelligence séparée?
Non, on va dire que c'est une intelligence séparée. C'est la même chose. Qu'est-ce qui est plus séparé, l'appréhension ou le jugement? Je crois que c'est l'appréhension. Parce que l'appréhension saisit quelque chose de simple, de forme. Mais l'appréhension n'est jamais saisie en dehors du jugement. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est que je ne peux jamais saisir l'appréhension en dehors du jugement. C'est à l'intérieur du jugement que nous saisissons l'appréhension. Et l'appréhension, c'est à la fois le dépassement du jugement et le jugement est le dépassement de l'appréhension. C'est réciproque. C'est ça que je peux pas regarder ça, c'est réciproque. Il y a quelque chose qui dans l'appréhension va plus loin